Chapitre 5. Steak tête. 1. Les compagnons de l'homme à chevelure blanche étaient beaucoup plus jeunes que lui. Roland aurait même dit de l'un d'eux qu'il sortait à peine de l'adolescence. Et tous deux avaient l'air absolument terrifiés. Terrifiés à l'idée de se faire descendre par erreur, bien sûr. C'est pourquoi ils s'étaient précipités vers eux, les mains en l'air, mais aussi terrifiés par autre chose. Parce qu'il devait avoir compris à présent qu'il n'allait pas se faire assassiner à main levée. Le doyen du groupe eut comme un spasme qui le fit sursauter et l'extirpa de ses pensées intimes.
« Bien sûr que non, tu n'es pas Bobby Garfield, » murmura-t-il. « Pour commencer, tu n'as pas la bonne couleur de cheveux et... »«
Ted, il faut qu'on se barre d'ici. » lança le plus jeune des trois sur un ton d'urgence. « Et je veux dire, immédiatamente. »«
Oui !»
acquiesça le vieux sans pourtant quitter Jack des yeux. Il se passa la main sur les yeux. Il fit penser à Eddie à un médium de fête foraine s'apprêtant à faire son tour. Puis reprit une contenance normale.
« Oui, bien sûr !»
Il se tourna vers Roland.
« Vous êtes le digne ?» Roland de Gilead, le Roland de la lignée d'Elde.
Oui, je...
commença Roland. Puis il bascula en avant dans un nouveau haut-le-cœur. Il ne sortit de sa gorge qu'un long filet de salive argentée. Il avait déjà restitué sa part de soupe et de sandwich à la Nigel. Il porta ensuite un poing légèrement tremblant à son front en guise de salut et articula.
Oui. « Vous avez l'avantage sur moi, Sai. »«
Peu importe, » répondit l'homme aux cheveux blancs. « Voulez-vous venir avec nous, vous et votre catette ?»«
Pour sûr, » dit Roland.
Derrière lui, Eddie se pencha pour vomir une nouvelle fois.
« Bon Dieu !» s'exclama-t-il d'une voix entrecoupée. « Moi qui pensais que voyager en car était ce qu'il y avait de pire, à côté, traverser le pays en Greyhound, ce serait comme...
Comme une cabine en première à bord du Queen Mary ?»
compléta Susanna d'une toute petite voix.
« Allez !» reprit le plus jeune d'une voix impatiente. « Si la fouine est en route avec toute sa clique de taïne, il sera là dans 5 minutes. »«
Oui !»
répéta l'homme à toison blanche.
« Il faut vraiment y aller, monsieur Deschaine. »«
Passez devant, » dit Roland. « Nous vous suivrons. »
2. Ils ne débouchèrent pas dans une gare ferroviaire, mais plutôt dans une sorte de gigantesque gare de triage couverte. Les raies argentées que Jake avait aperçues se révélèrent être des rails qui s'entrecroisaient, au moins 70 paires distinctes. Sur quelques-uns, de gros moteurs boudinés automatisés allaient et venaient, accomplissant des tâches devenues obsolètes depuis des siècles. L'un d'eux poussait un wagon plat rempli de poutrelles rouillées. Un autre se mit à brailler d'une voix synthétique.
« Un Kamka A est demandé au port numéro 9. Kamka A au port numéro 9, s'il vous plaît. »
Jouer aux échasses sauteuses sur la hanche d'Eddie commençait à redonner le mal de mer à Susanna. Mais elle avait attrapé l'impatience contagieuse du vieillard aussi sûrement qu'un rhume. Et maintenant, elle savait ce qu'étaient les taïnes. Des créatures monstrueuses, à corps d'homme et à tête d'oiseau ou de bête sauvage. Elle lui rappelait ses trucs dans les tableaux de Bosch, le jardin des délices.
« Trésor, il va peut-être falloir que je revomisse, » dit-elle. « Mais ne t'avise pas de ralentir si ça me prend. »
Eddie émit un grognement qu'elle prit pour une réponse affirmative. Elle voyait la sueur perler sur la peau pâle du jeune homme et en était désolée pour lui. Il était aussi nauséeux qu'elle. Maintenant, elle savait l'effet que ça faisait de passer par un système scientifique de téléportation qui aurait bien eu besoin de 2 ou 3 réglages. Elle se demanda si elle se sentirait un jour capable de renouveler l'expérience, si elle le devait. Jack leva les yeux et vit un toit constitué de millions de panneaux de formes et de tailles différentes. C'était comme regarder une mosaïque de céramique peinte d'un gris uniforme. Puis un oiseau volta à travers l'un des panneaux et Jack comprit qu'il ne s'agissait pas d'ardoise, mais de plaques de verre, dont certaines étaient brisées. La couleur gris foncé était vraisemblablement celle du monde extérieur à Tonnefoudre.
« Comme une éclipse permanente »,
se dit-il avec un frisson. À ses côtés, Othé eut une nouvelle quinte rauque, puis se remit à trottiner en secouant la tête. 3. Ils passèrent devant une poignée de machines échouées, des générateurs à première vue, puis pénétrèrent dans un labyrinthe de wagons disposés pêle-mêle, très différents de ceux tractés par Blaine le Mono. Certains rappelèrent à Susanna les trains de banlieue qu'elle aurait pu apercevoir à la gare de Grand Central dans son New York de 1964. Et comme pour confirmer cette impression, elle remarqua que l'un d'eux portait l'inscription « voiture-bar » sur le côté. Pourtant, d'autres semblaient bien plus anciens que celui-là, faits non pas de chrome brossé, mais d'acier noir et orné de rivets, le genre de wagon passager qu'on verrait dans un vieux western ou dans une série télé comme Maverick. Sur le côté se tenait un robot avec des câbles jaillissant de son cou tous azimuts. Sous le bras, il portait sa tête, affublée d'un képi vert avec un écusson conducteur de classe A. Susanna tenta d'abord de garder en mémoire leur itinéraire dans ce labyrinthe, puis décida qu'elle avait mieux à faire de son énergie. Ils finirent par déboucher à une quinzaine de mètres d'une cabane à mur de bardeaux, portant l'inscription allitérative « Cargaison, bagages égarés » au-dessus de la porte. Ils en étaient séparés par une chape de béton craquelée, jonchée de wagons abandonnés, de pièces détachées, de grues empilées, ainsi que de deux loups morts.
« Non, »
corrigea Susanna,
« de trois. »
Le troisième s'appuyait contre le mur dans la pénombre, juste au coin de la cabane, cargaison, bagages égarés.
« Allons-y !» fit le vieil homme à tignasse blanche. « On n'est plus très loin, mais il faut se dépêcher parce que si les taïnes de la maison des cœurs brisés nous rattrapent, ils vous tueront. »«
Ils nous tueront, nous aussi !»
intervint le plus jeune des trois. D'un geste de la main, il balaya les cheveux qui lui tombaient sur le visage.
« Nous tous, sauf Ted.
Ted est le seul d'entre nous à être indispensable, mais il est trop modeste pour le dire. »
Au-delà de la cabane, cargaison, bagages égarés, se trouvait le bureau de chargement, ce qui parut assez logique à Susanna, finalement. Le type à cheveux blancs essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée, ce qui parut plus le réjouir que l'affecter.
« Dinky ? »
fit-il. Dinky était apparemment le plus jeune des trois. Il saisit le bouton de porte et Susanna entendit un craquement sec à l'intérieur. Dinky recula. Lorsque Ted essaya de nouveau, la porte s'ouvrit sans peine. Ils pénétrèrent dans un bureau sombre, coupé en deux par un comptoir haut. Dessus était posé un carton qui, pour un peu, aurait rendu Susanna nostalgique. « Prenez un numéro et attendez. » Lorsque la porte fut refermée, Dinky saisit de nouveau le bouton. Un autre claquement sec résonna.
« Vous venez de la reverrouiller ?» constata Jack.
Il avait pris un air accusateur, mais un sourire lui était monté aux lèvres et son visage reprenait des couleurs.
« Pas maintenant, s'il vous plaît, » dit l'homme à cheveux blancs. « Ted, pas le temps, suivez-moi, je vous prie. »
Il fit basculer un segment du comptoir et les conduisit de l'autre côté. Derrière se trouvait une sorte de bureau contenant deux robots qui avaient l'air morts depuis longtemps et trois squelettes.
« Mais pourquoi diable est-ce qu'on n'arrête pas de trouver des os partout ?»
s'exclama Heidi. Lui aussi se sentait mieux et ne faisait que penser à voix haute, n'espérant pas vraiment une réponse. Il en reçut pourtant une, de Ted.
« Vous avez entendu parler du roi cramoisi, jeune homme ?»«
Oui, bien sûr que oui. Je crois qu'à une époque, il a recouvert toute cette partie du monde de gaz toxique. Pour rire, sans doute. » Il a tué presque tout le monde, et ses ténèbres en sont le résultat. Il est fou, bien sûr, c'est en partie le problème. Par ici. »
Il leur fit franchir une porte marquée privée, qui ouvrait sur une pièce qui avait dû autrefois faire office de bureau pour un grand ponte du monde merveilleux des expéditions et des cargaisons. Susanna vit des traces sur le sol, suggérant que quelqu'un était venu sur les lieux récemment. Peut-être ces trois hommes eux-mêmes. Sous une couche de 20 cm de poussière poilue pointait un bureau, flanqué de deux chaises et d'un canapé. Derrière le bureau, une fenêtre. Des stores devaient autrefois l'obstruer, mais ils s'étaient écroulés par terre, révélant une vue aussi inhospitalière que fascinante. Les terres au-delà de la guerre de Tonnefoudre rappelaient les étendues plates et désertes sur les rives de la Waye, en plus rocailleuses et encore plus lugubres. Et en plus sombres, bien sûr. Des rails, sur lesquels reposaient des trains immobilisés pour l'éternité, rayonnaient en étoiles comme une toile d'araignée métallique. Au-dessus, un ciel gris ardoise semblait s'affaisser sur eux, pour un peu ils auraient pu le toucher. Entre ciel et terre, l'air était étrangement épais. Susanna se rendit compte qu'elle plissait les yeux pour y voir mieux, bien qu'il n'y eût ni brume ni brouillard.
« Dinky ?»
fit l'homme aux cheveux blancs.
« Oui, Ted. »«
Qu'as-tu laissé comme surprise à notre ami la fouine ?»«
Un drone d'entretien, » répondit Dinky. « Ça fera comme s'il avait réussi à dégoter la porte de Félix, déclencher l'alarme et s'était fait griller sur les rails tout au bout de la gare de triage. Il y en a quelques-uns qui sont encore chauds. On voit des oiseaux morts tout le temps dans les parages, grillés comme des chips. Mais même un gros rouillot suffirait pas à déclencher l'alarme, tandis qu'un drone... Je suis presque certain qu'il va gober l'histoire. Pas folle, la fouine, mais ça sera très crédible.
Bien, c'est très bien. Regardez là-bas, pistolero. »
Du doigt, Ted leur indiqua un promontoire rocheux escarpé à l'horizon. Susanna le vit sans peine, au milieu de ce décor de ténèbres. Tous les horizons paraissaient proches. Elle ne nota rien de remarquable, pourtant rien que des plis d'ombre sur de l'ombre et des pentes stériles de cailloux éboulés.
« C'est Canstec-tête. »«
La petite aiguille, » décoda Roland.
« Excellente traduction. C'est là que nous allons. »
Susanna sentit ses espoirs s'effondrer. Cette montagne, ou peut-être appelait-on ce genre d'excroissance une butte, devait se trouver à 10 ou 15 kilomètres, à la limite de leur champ de vision en tout cas. Eddie et Roland, et les deux plus jeunes de la bande de Ted, ne pourraient pas la porter si loin, du moins elle ne le croyait pas. Et comment savoir s'ils pouvaient faire confiance à ces hommes de toute façon?
D'un autre côté, a-t-on vraiment le choix? Se demanda-t-elle.
Nous n'aurons pas à vous porter, lui dit Ted. « Mais Stanley aura besoin de votre aide. Nous joindrons les mains comme pour une séance de spiritisme. Je vous demanderai à tous de visualiser cet amas rocheux quand nous passerons, et de garder ce nom bien clair dans votre esprit. Steak-tête, la petite aiguille. »«
Wah, 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 wah !» fit Eddie. Ils approchaient d'une nouvelle porte, ouvrant sur un placard celle-ci. Des cintres métalliques et une vieille veste rouge étaient suspendus à l'intérieur. Eddie agrippa Ted par l'épaule et le fit pivoter.
« Quand nous passerons quoi? Où? Parce que si c'est une porte comme la dernière qu'on a... »
Ted leva les yeux vers Eddie. Les leva vraiment, car Eddie était plus grand que lui. Et Susanna fut témoin d'une chose incroyable et consternante. Les yeux de Ted eurent l'air de trembler dans leurs orbites. Une seconde plus tard, elle comprit ce qui se passait réellement. Les pupilles du vieillard se dilataient et rétrécissaient à un rythme rapide et dérangeant, comme si elle n'arrivait pas à déceler s'il faisait clair ou sombre dans la pièce.
« Ce n'est pas du tout une porte qu'il nous faudra franchir, du moins pas du genre de celle que vous connaissez déjà. » « Il va falloir me faire confiance, jeune homme. Écoutez !»
Tous se turent, et Susanna entendit le grondement de moteur à l'approche.
« C'est la fouine !» leur annonça Ted. « Accompagnée de Taïn, sans doute. Au moins 4, peut-être même une demi-douzaine. S'ils nous surprennent ici, Dink et Stanley mourront certainement. Ils n'auront même pas besoin de nous prendre. Nous surprendre suffira. » « Nous risquons notre vie pour vous. Ce n'est pas un jeu. Aussi, je vous demande d'arrêter de poser des questions et de me suivre.
Nous vous suivrons, dit Roland, et nous penserons à la petite aiguille.
Steak tête,
renchérit Susanna.
Et vous ne serez plus malade,
intervint Dinky. Promis.
Dieu merci,
lâcha Jake.
Dieu assis,
acquiesça Otey. Pour sa part, Stanley, le troisième membre de la bande de Ted, ne pit pas mot. 4. Ce n'était qu'un placard, et un placard de service avec ça, étroit et sentant le moisi. La vieille veste rouge était ornée d'une barrette de cuivre sur la poche de poitrine, avec l'inscription « chef de chargement ». Stanley les conduisit au fond, où ils se heurtèrent à un mur aveugle. Des porte-manteaux tintinabulaires. Jake dut faire attention de ne pas marcher sur Otey. Il avait toujours eu une petite tendance à la claustrophobie et il sentait les doigts grassouillés de Madame Panique lui caresser la nuque, d'un côté puis de l'autre. Les Rizzas s'entrechoquaient doucement dans leur sac. Sept personnes et un bafou bafouilleux s'entassant dans un placard de service abandonné. De la folie furieuse. Il entendait toujours le grondement des moteurs, mené par la fouine.
« Joignez les mains, » murmura Ted, « et concentrez-vous. »«
Steak tête, »
répéta Susanna, mais cette fois avec une pointe de doute, sembla-t-il à Jake.
« Petite aiguille, »
commença Eddie, puis il s'arrêta net. Le mur aveugle au fond du placard avait disparu. À sa place était apparue une petite clairière cernée par des rochers d'un côté et par un flanc de collines broussailleux et à pic de l'autre. Jack aurait parié qu'il s'agissait de Steak-Tête, et si c'était là une issue à cet espace confiné, il s'en trouvait ravi. Stanley émit un petit grognement de douleur ou d'effort, peut-être des deux. L'homme avait les yeux fermés et des larmes perlées sous ses paupières.
« Maintenant, » fit Ted. « Fais-nous passer, Stanley. »
Se tournant vers les autres, il ajouta
« Aidez-le si vous le pouvez. Aidez-le au nom de vos pères. »
Jake essaya de fixer une image de l'immar rocheux que Ted leur avait montré à travers la fenêtre du bureau. Ce faisant, il s'avança, la main dans celle de Roland devant lui et dans celle de Susanna derrière. Il sentit un courant d'air froid sur sa peau voilée de sueur et posa le pied sur la pente rocailleuse de Steak-Tête à tonne foudre, avec une pensée fugitive pour M.C.S. Lewis et pour l'armoire merveilleuse qui menait à Narnia. 5. Ce n'est pas à Narnia qu'ils se retrouvèrent. Il faisait froid, à flanc de coteau. Et bientôt, Jake se mit à frissonner. En regardant par-dessus son épaule, il ne vit nulle trace du portail par lequel il était passé. L'air était dîme, et il y flottait des relents âcres et pas particulièrement plaisants, une odeur de pétrole. Une petite grotte apparaissait dans un repli de la pente rocheuse, encore une sorte de placard. Et Ted alla y chercher un tas de couvertures et un bidon qui se révéla rempli d'eau au goût prononcé d'alcali. Jake et Roland se drapèrent chacun d'une couverture simple. Eddie en prit deux et les enroula autour de Susanna et lui. Jake, qui essayait d'empêcher ses dents de se mettre à claquer, s'il laissait faire, il serait impossible de s'arrêter, enviait ces deux-là de pouvoir partager leur chaleur. Dink s'était couvert lui aussi, mais ni Ted ni Stanley ne semblaient souffrir du froid.
« Regardez en bas, » dit Ted à Roland et aux autres.
Il pointait le doigt en direction de la toile d'araignée tissée par les rails. Jake apercevait le vaste toit en verre de la gare de triage, ainsi qu'une structure à toit vert d'environ 600 mètres de long, à côté. Les rails partaient en étoiles tous azimuts.
« La gare de Tonnefoudre, » s'émerveilla-t-il, « là où les loups mettaient les enfants kidnappés dans le train et les envoyaient le long du sentier du rayon jusqu'à Fédic. Là aussi qu'ils les ramenaient après qu'ils avaient été crânés. »
Après tout ce qu'il avait traversé, il était difficile pour Jake de croire qu'il se trouvait là, à une dizaine de kilomètres, seulement 2 minutes plus tôt.
Il soupçonnait qu'ils avaient tous joué un rôle, tous contribué à maintenir le portail ouvert. Mais que c'était le dénommé Stanley qu'il avait créé. Il lui trouvait à présent le visage pâle et l'air fatigué, presque lessivé. Il vacilla même. Et Dink, surnom malheureux s'il en était, de la vie de Jake, le rattrapa par le bras et l'aida à se redresser. Stanley ne parut pas s'en rendre compte. Il contemplait Roland avec une sorte d'admiration effrayée.
« Il n'y a pas que ça, » se dit Jake. « Et ce n'est pas exactement de la peur non plus, c'est quelque chose d'autre. Mais quoi ?»
Aux abords de la gare, ils tombèrent sur deux bucas à moteur avec de gros pneus ballons, des tout-terrains. Jake en déduisit que c'était ceux de la fouine, qui que fût ce personnage, et de ses potes Taïn.
« Comme vous aurez pu le déduire, » leur raconta Ted. « Il y a une alarme dans le bureau du surveillant du Devartois, dans le bureau du gardien, si vous préférez. Elle se déclenche dès que quelqu'un ou quelque chose utilise la porte entre l'aire de chargement de Fédic et cette gare là-bas.
« Je crois que le terme que vous avez employé pour le désigner, » dit Roland sur un ton sec, « n'était ni surveillant ni gardien. » « Mais qui dame ?»
Dink eut un petit rire.
« Ça c'est bien observé, mon pote. »«
Que signifie qui dame ?»
demanda Jack, bien qu'il en eût une petite idée. Il y avait cette expression des gens de la Cala. Boîte tête, boîte cœur et boîte raclée ou qui boîte. Ce qui signifiait, de haut en bas, les processus de pensée, les émotions et les fonctions intestinales. Les fonctions animales en d'autres termes. Qui boite pouvait se traduire grossièrement par « boîte à merde » si on était d'humeur vulgaire. Ted haussa les épaules.
« Qui dame veut dire cerveau de merde. C'est le surnom que Dinky a trouvé à Sai Prentice, le maître de Var. Mais tu le savais déjà, non ?»«
Sans doute, »
acquiesça Jake.
« En quelque sorte. »
Ted l'observa longuement et lorsque Jake put nommer cette expression sur son visage, il identifia plus facilement celle de Stanley alors qu'il dévisageait Roland. Non pas avec peur, mais avec fascination. Jake avait la nette impression que Ted pensait encore à la ressemblance frappante entre lui et un garçon du nom de Bobby. Et il était presque certain que Ted savait qu'il possédait le don de Shining. Quelle était la source de la fascination de Stanley? Peut-être Jake exagérait-il un peu les choses. Peut-être Stanley était-il seulement impressionné de voir un pistolero en chair et en os. De but en blanc, Ted se détourna de Jake et s'adressa à Roland.
« Maintenant, regardez par là, » dit-il.
« Waouh !» s'exclama Eddie. « Mais qu'est-ce que c'est, bon sang ?»
Susanna était aussi amusée que stupéfaite. Ce que Ted leur montrait lui rappelait l'époque biblique de Cecil B. DeMille, les 10 commandements, notamment la scène où Moïse faisait s'ouvrir la mer Rouge, qui ressemblait à s'y méprendre à de la gelée de fruits, et Dieu qui parlait dans le buisson ardent avec la voix de Charles Lofton. Quoi qu'il en soit, c'était bel et bien stupéfiant. Dans le genre effets spéciaux ringards fabriqués à Hollywood, évidemment. Ce qu'ils virent, c'est un unique éclair, rebondi et magnifique, jaillissant à pic d'une trouée dans les nuages ventrus. Il déchirait l'air étrangement sombre comme un projecteur et venait éclairer une enceinte située à quelques 10 kilomètres de la gare de Tonnefoudre. Et quelques 10 kilomètres étaient réellement l'appréciation la plus précise qu'on pût donner. Car il n'y avait plus dans ce monde ni nord ni sud. En tout cas, ni nord ni sud sur lesquels on put compter. Il n'y avait plus désormais que le sentier du rayon.
« Dinky, il y a une paire de jumelles dans...
la grotte du bas, c'est ça ?»«
Non, je les ai remontées la dernière fois que nous sommes venus ici. »
répondit Ted en prenant soin de ne pas perdre patience.
« Elles sont sur le tas de cajots, juste à l'entrée. Va les chercher, s'il te plaît. »
Eddie remarqua à peine cette petite scène secondaire, tant il était charmé et fasciné par cet unique et formidable rayon de soleil, venant illuminer un pan de terre verdoyant et joyeux, aussi improbable dans ce désert obscur et stérile que... Eh bien, que Central Park pour des touristes du Midwest lors de leur première visite à New York. Il apercevait des immeubles ressemblant à des dortoirs de lycée, des chouettes dortoirs, et d'autres qui avaient l'air de vieux manoirs confortables avec de grandes étendues de pelouse à leurs pieds. À l'extrémité de la zone éclairée par le rayon de soleil apparaissait ce qui ressemblait à une rue bordée de boutiques. La parfaite petite rue principale d'une bourgade américaine typique, à un détail près. Dans toutes les directions, elle se heurtait au désert sombre et rocailleux. Il aperçut 4 tours de pierre, dont les murs étaient joliment recouverts de lierre. Non, il en dénombra 6, à bien y regarder. Les 2 autres disparaissaient presque complètement derrière des bouquets de vieux ormes gracieux. Des ormes en plein désert. Dink revint avec une paire de jumelles qu'il tendit à Roland, qui secoua la tête.
« Il faut pas lui en vouloir, » glissa Eddie. « Ses yeux, eh ben, disons seulement qu'ils sont différents. Mais je ne dirais pas non à un petit coup d'œil, personnellement. »«
Moi non plus, »
renchérit Susanna. Eddie lui donna les jumelles.
« Honneur aux dames. »«
Non, vraiment, je... »«
Arrêtez !» grogna presque Ted. « Notre temps est compté et nous prenons des risques énormes. Ne gaspillez pas le premier et n'accroissez pas les seconds, si vous le voulez bien. »
Susanna se sentit heurtée, mais retint sa réplique. Elle préféra prendre les jumelles, les porta à ses yeux et les régla. Ce qu'elle vit ne fit que confirmer cette impression qu'elle observait un parfait petit campus universitaire se fondant harmonieusement dans le village voisin.
« Pas de tension et d'incompréhension ici, je parie, » se dit-elle. « Je suis sûre qu'Ormeville et la fac des briseurs s'entendent comme le pain et la confiture, comme Abbott et Costello, comme Q et chemise. »
À chaque fois qu'il y avait une nouvelle de Ray Bradbury dans le Saturday Evening Post, elle le repliait pour la placer en première page. Elle adorait Bradbury. Et ce qu'elle voyait dans ses jumelles lui faisait penser à Greentown, ce village d'Illinois déserté, idéalisé, chez cet auteur. Le genre d'endroit où les adultes s'asseyaient sous la véranda dans des rocking chairs à boire de la limonade, tandis que les gamins jouaient à s'attraper à la lampe de poche, dans le crépuscule estival grouillant d'insectes et de lucioles. Et le campus à côté? Pas d'alcool là-bas, en tout cas pas de débordement. Pas de joint ou de barbiturique ou de rock'n'roll non plus. C'était le genre d'endroit où les filles disaient bonsoir aux garçons d'un chaste et ardent baiser sur la joue, trop heureuses de rentrer à l'heure, pour ne pas faire mauvaise impression auprès de la surveillante du dortoir. Un endroit où le soleil brillait tout le jour, où Perry Como et les Andrews Sisters passaient à la radio, et où personne ne soupçonnait qu'ils vivaient tous dans les ruines d'un monde qui avait changé.
« Si, » se dit-elle froidement. « Certains d'entre eux le savent. C'est pour ça que ces 3-là se sont pointés à notre rencontre. »«
C'est le Devartois, » fit Roland d'une voix monocorde. « Ce n'était pas une question. »«
Ouais, » fit Dinky, « ce bon vieux Devartois. »
Il se tenait près de Roland et tendait le bras en direction d'une grande bâtisse blanche à côté des dortoirs.
Vous voyez le truc blanc? C'est la maison des cœurs brisés, c'est là que vivent les Cantois. Ted les appelle les hommes de l'ombre, les crapules de bas étage. Ce sont des hybrides humains-taïnes. Et eux n'appellent pas cet endroit le Devartois, ils l'appellent Algul Siento, ce qui veut dire
« Le paradis bleu, » dit Roland, et Jake comprit subitement pourquoi.
Toutes les bâtisses, à l'exception des tours de pierre, avaient un toit de tuiles bleues. Non pas Narnia, mais le paradis bleu, où une poignée de types s'affairait à précipiter la fin du monde, de tous les mondes.